tabaka ka muna na tabanka non dikira muna na mfare blessed.
plus qu'un besoin de justice. Il me pousse à prendre les armes. Je tuerai pour défendre mon arbre. Je tuerai si par malheur il s'acharne.
Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
I'm the J57, I'm from the talent of Brown Bagel Star.
Yeah, Rashid Chappelle, J57, Elite Status.
It's that Brown Bag All Star shit, you know what I'm saying?
Yo.
Il est 5h en temps universel, 7h ici à Paris.
RFI Matin, Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le début de ces 3 heures d'actualité internationale. On sera notamment au Liban ce matin, alors que le Hezbollah rejette le cessez-le-feu annoncé avec l'État hébreu et que les frappes israéliennes se poursuivent. Rendez-vous avec notre correspondant à Beyrouth dans une heure. Pour l'instant, le journal international, c'est avec vous Martin Gaz, bonjour.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à toutes et à tous.
Et elle a eu l'opération séduction des pays des Balkans auprès de l'Union Européenne.
Un décor de carte postale au bord de l'Adriatique, un cadre idéal pour faire sa demande. Une demande d'adhésion, bien sûr, demande faite il y a 20 ans déjà par le Monténégro qui accueille ce sommet et qui paraît le pays le mieux placé pour rejoindre l'Union Européenne, le pays qui se positionne pour devenir le 28e État européen en 2028. Elle a une également le Proche-Orient et ce cessez-le-feu déjà vacillant au Liban où le Hezbollah rejette l'accord conclu avec Israël à Washington. L'armée de l'État hébreu qui continue ses bombardements au Liban comme à Gaza. Reportage à suivre dans l'enclave où il y a une pénurie d'huile de moteur et d'électricité. Les États-Unis parient à nouveau sur le charbon, combustible d'un autre temps extrêmement polluant, mais Donald Trump fait un geste envers les industriels du secteur qui figurent parmi ses soutiens les plus actifs. Nous serons aussi dans le journal à Mayotte où le nombre de cas de paludisme explose, à Bourg-en-Bresse en France où les jeunes agriculteurs sont désabusés face aux responsables politiques et à Nantes où les bleus de Kylian Mbappé mordent de la poussière face à la Côte d'Ivoire. Inquiétant, à une semaine du mondial de foot, pas vraiment, répondent les supporters.
Monténégro toque à la porte de l'Union Européenne.
Et passe en opération séduction, non pas dans la capitale Podgorica, mais dans la station balnéaire de Tivat, au bord de l'Adriatique, où se déroule ce matin le sommet entre l'UE et les Balkans, un sommet axé sur l'élargissement de l'Union Européenne, qui n'a plus accueilli de nouveaux membres depuis la Croatie. En 2013, le Monténégro est le mieux engagé sur la voie de l'intégration. Un bon élève qui aimerait rejoindre la classe européenne en 2028 et qui sort donc le grand jeu pour Emmanuel Macron, le président français, Friedrich Merz, le chancelier allemand, encore Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Le Monténégro, qui n'est pas le seul pays des Balkans à vouloir rejoindre le club des 27. 27 pour le moment. Envoyée spéciale de RFI au Monténégro, Sofia Katsenkova.
Ce sommet s'ouvre ce matin avec une grande question. Comment garder les Balkans occidentaux dans l'orbite européenne alors que l'élargissement reste un processus lent, technique et souvent frustrant ? C'est dans ce contexte que la France et l'Allemagne veulent donner une nouvelle dynamique au processus. Leur idée, rapprocher les pays candidats de l'UE avant même l'adhésion complète. Les plus avancés pourraient obtenir un accès privilégié au marché intérieur, participer davantage à certains programmes européens ou assister comme observateur à certaines réunions de l'UE sans droit de vote. Selon des sources proches du dossier, le message est simple. Plus un pays avance dans les réformes, plus l'Union européenne lui donne en retour. Car une partie de la région prend du retard, la Serbie, la Bosnie ou encore le Kosovo. Le Monténégro, lui, veut se présenter comme le bon élève. Il espère toujours rejoindre l'Union européenne en 2028 et le pays attend depuis longtemps. Il est officiellement candidat depuis 2010.
Sofia Katsenkova, l'on retrouvera dans un peu plus d'une heure avec Milojko Spajic, Premier ministre du Monténégro, qui sera ce matin notre invité. Le Monténégro qui espère donc devenir le 28e État membre de l'UE en 2028, soit 20 ans après le dépôt de candidature de ce pays de 625 000 habitants.
À la une également ce matin, Martin, ce cessez-le-feu qui n'aura pas duré au Liban.
Un cessez-le-feu mort-né, à peine annoncé, déjà menacé. La nouvelle trêve entre le Liban et Israël, décrétée hier à Washington, n'a aucun effet concret sur le terrain où les bombardements israéliens ont fait au moins 8 morts hier dans le sud et dans l'est du Liban. Un soldat israélien a lui été tué, un cessez-le-feu qui était conditionné à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah. Mais hier, le chef du mouvement chiite pro-iranien Naïm Qassem a rejeté l'accord de Washington et réclamé un retrait total des forces israéliennes tout en menaçant le nord de l'État hébreu de nouvelles attaques. Toujours au Proche-Orient, Clotilde, les bombardements israéliens sur Gaza ont fait 11 morts hier. Là aussi, le cessez-le-feu d'octobre dernier est largement bafoué. Plus de 900 personnes ont été tuées depuis l'entrée en vigueur de cette trêve, selon le ministère de la Santé du Hamas. Alors que la semaine passée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à son armée de prendre le contrôle de 70% de la bande de Gaza contre 60% auparavant. Dans l'enclave palestinienne, les Gazaouis font toujours face à de multiples pénuries, notamment d'essence, de gaz et d'huile de moteur qui se vend 1 000 $ le litre sur le marché noir. De l'huile de moteur pourtant essentielle à la production d'électricité. Reportage à Gaza de Ramiel Merari avec l'appui de Frédéric Misselin à Jérusalem.
La colère monte dans les locaux de la société à la Rouki. Les clients n'ont plus d'électricité et Moussa est venu se plaindre.
C'est très difficile pour moi. Ni la machine à laver, ni le téléphone portable ne fonctionnent. J'ai dû payer pour aller charger le téléphone à l'extérieur.
Ahmad Alarouki, le directeur, tente d'expliquer la situation.
L'armée israélienne a interdit l'entrée des huiles de vidange à Gaza, mais ce n'est pas une substance interdite à tout le monde. Pour nous, fournisseurs privés d'électricité, ce n'est pas autorisé, mais on permet à d'autres entreprises, de télécommunications par exemple, d'obtenir de l'huile et des pièces de rechange.
Avoir de l'électricité pour certains, c'est vital. Iyad, 24 ans, a été blessé par un éclat d'obus il y a un an. Il a de lourdes séquelles physiques qui l'obligent à utiliser plusieurs appareils électriques.
Je souffre de fortes crampes musculaires, donc j'ai besoin d'une machine et d'un matelas qui aident à relâcher la tension. L'éclat a touché ma moelle épinière et ma gorge aussi. Je ne peux pas me déplacer et ma voix est affectée.
L'entreprise Alarouki fournissait de l'électricité à 200 magasins à Megazi et 3000 particuliers. Rami Almegari dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Dans l'actualité également, Volodymyr Zelensky qui met la pression sur Vladimir Poutine.
Le président ukrainien qui a proposé dans une lettre ouverte une rencontre directe à son homologue russe.
ajoutant qu'après 4 ans de guerre, l'Ukraine était prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations auxquelles il estime que l'Europe et les États-Unis devraient participer, proposition qui intervient au lendemain de frappes de drones sur des infrastructures énergétiques russes à Saint-Pétersbourg. Ça serait super cette rencontre, répond Donald Trump, tandis que Vladimir Poutine n'a lui pas directement répondu. Le Kremlin a déclaré que Volodymyr Zelensky était le bienvenu à Moscou, ce que Kiev a toujours catégoriquement refusé. Le président russe qui doit lui s'exprimer aujourd'hui à Saint-Pétersbourg lors du 29e forum économique de la ville.
Il est 7h07 à Paris, comme à Pretoria. Le président kényan William Ruto est en visite en Afrique du Sud.
Une visite d'État lors de laquelle le dirigeant a rencontré son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, qui ont signé de nombreux accords de partenariat. Les deux hommes sont revenus sur une question d'actualité brûlante, celle des violences xénophobes en Afrique du Sud. Correspondance Valentin Hugues.
Si le Kenya a appelé ses ressortissants vivant en Afrique du Sud à la plus grande prudence face aux manifestations xénophobes, lors de sa visite à Pretoria, le président kényan William Ruto a préféré aborder les causes profondes de la migration intra-africaine.
Je pense qu'une partie du défi auquel l'Afrique du Sud est confrontée tient au fait qu'il s'agit d'un pays bien plus développé. Il est donc plus facile pour certains de venir ici à la recherche de services et d'opportunités. La solution consiste à veiller à ce que des services et des opportunités existent partout sur notre continent, afin que les habitants de ce continent puissent évoluer ensemble, sans créer de conflits inutiles.
Le week-end dernier, au moins 2 Mozambicains ont été tués dans ce contexte de grande marche anti-immigration à travers l'Afrique du Sud, qui parfois se transforme en chasse aux étrangers. Des centaines de Ghanéens ont déjà fui le pays. Le Nigeria ou encore le Malawi annoncent aussi le rapatriement de certains ressortissants. Mais aux côtés de son homologue kényan, le président sud-africain Cyril Ramaphosa fait le choix de temporiser.
Les Sud-Africains ne sont pas xénophobes. Notre peuple nous demande, en tant que dirigeants, de résoudre les nombreux défis soulevés par la question de la migration.
Le chef de l'État a également annoncé l'envoi de délégations dans les pays voisins pour échanger sur la question migratoire. Valentin Hugues, de retour de Pretoria, RFI.
Et les violences xénophobes en Afrique du Sud, sur lesquelles nous reviendrons également avec Cécile Perrault, maître de conférence en études sud-africaines à l'Université de Rennes. Elle sera l'invitée d'Alexandra Branjon dans 3 quarts d'heure.
RFI, la radio du monde.
Les États-Unis retournent au charbon.
Ce qui n'est pas vraiment dans le sens de l'histoire. La Maison-Blanche qui a bien annoncé une nouvelle vague de financement en faveur des énergies fossiles. 700 millions de dollars pour remettre d'aplomb une dizaine de centrales à charbon. Une industrie pourtant sous le feu des critiques en raison de son impact dramatique sur l'environnement et sur la santé. Les ONG climatiques y voient un cadeau aux industriels du secteur qui ont largement soutenu financièrement Donald Trump lors de sa dernière campagne présidentielle. À Washington, Vincent Souriau.
Les trois piliers de ce plan charbon, un, la rénovation de 13 centrales existantes réparties sur l'ensemble du territoire américain. L'administration Trump débloque 425 millions de dollars pour optimiser et pérenniser ces bâtiments. Deux, la construction de 2 nouveaux sites en Alaska et en Virginie occidentale et celle d'un terminal charbonnier en Californie, autrement dit une infrastructure portuaire conçue pour la manutention, le stockage et le transport du charbon. Trois, les permis miniers. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a validé plus de 75 projets d'exploitation minière. Pour quelle raison? D'après le président américain, il s'agit de garantir la baisse des prix de l'électricité et d'alimenter les centres de données d'intelligence artificielle désignés comme des enjeux de sécurité nationale. Les organisations de défense de l'environnement dénoncent de leur côté des mesures rétrogrades qui récompensent les pollueurs et mettent la santé des Américains en danger. Vincent Souriau, Washington RFI.
Dans l'actualité française, Martin, Mayotte sur un double front sanitaire.
L'archipel français de l'océan Indien inquiet face à la propagation du virus Ebola, alors que de nombreux migrants congolais arrivent sur les côtes mahoraises. Mais les chiffres les plus inquiétants sont ceux du paludisme. 200 cas depuis le début de l'année. Jusqu'ici, la maladie a été importée en provenance d'autres pays de la région. Désormais, des dizaines de cas sont contractés directement à Mayotte, notamment à Chirungi, l'un des principaux foyers de transmission de la malaria. Reportage Lisa Morisseau.
Dans cette commune du sud de Mayotte, plus de 40 cas ont été recensés depuis le début de l'année. Des transmissions autochtones. Jean-Marc Roussin est médecin généraliste dans la ville.
En cabinet libéral, je ne vous cache pas qu'on voit très peu de cas. On a dû en voir 2 ou 3. Il semblerait que le foyer soit essentiellement dans les gens qui vivent dans les campagnes. Et donc les gens sans papier.
À Mayotte, les personnes sans papier renoncent parfois aux soins par crainte d'être arrêtées par la police. Néanmoins, depuis janvier, 30 personnes atteintes du paludisme ont été hospitalisées. dont 4 en réanimation. Jusque-là, à Mayotte, les cas étaient principalement importés des Comores. Bénédicte Ganga-Kifula, épidémiologiste à Santé publique France.
Ce qui est nouveau, c'est que après 4 années d'absence, donc en 2025, il y a eu des nouveaux foyers qui ont été identifiés là, mais non au sud du territoire. Ces zones sont considérées actuellement comme des zones d'entrée des migrants.
À ce jour, la situation reste maîtrisée selon la scientifique.
Mais à tout moment, on peut craindre une épidémie parce qu'il y a toujours une augmentation des cas importés, des nouveaux arrivants.
L'Agence régionale de santé mène sur le terrain des actions pour éliminer les zones de prolifération des moustiques. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
chercher un son nouveau, hein. Bon, alors, écoute ça.
Vous écoutez Principe Actif.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin, c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'amélioration de fréquence.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
Is the whole world going crazy?